Chapitre 6. Rassurez-vous, mes amis, je ne sais comment cela se fit, mais je soupçonne que quelqu'un se trouva là, près du rocher contre lequel ils avaient échoué, qu'il entendit leurs cris de détresse, les vit s'abîmer, se précipita, et profitant d'un de ces rapides instants où l'eau les repoussait à sa surface, les saisit d'un bras vigoureux et les déposa l'un après l'autre sur le bord du rivage, presque à moitié noyés. Lorsqu'ils reprirent entièrement connaissance, ils se virent dans une grande chambre du village, sur de bons matelas, enveloppés de chaudes couvertures, devant une immense cheminée où pétillait un feu de fagots secs. « Soyez tranquilles, » disait le maître du logis à une personne qui le reconduisait, et dont le témoin de cette scène ne put apercevoir que la grande ombre, parce que la porte était déjà presque entièrement refermée sur elle. « Soyez tranquilles, ce sera absolument comme s'ils étaient à nous. » J'imagine que ces derniers mots avaient rapport à nos deux naufragés. En effet, le meunier et sa femme, car la scène se passait dans un moulin des environs, eurent pour eux tous les soins imaginables, à ce point que, dès le lendemain même, les noyés de la veille étaient debout, frais et gaillards, couverts de leurs habits parfaitement séchés et tourmentés par un appétit que l'eau de la rivière avait pu endormir, mais qui ne s'en réveillait que plus exigeant. Une soupe copieuse et un énorme plat de pommes de terre, sur la cime duquel tremblotait un succulent morceau de porc frais, qu'on arrosa d'excellent cidre, complétèrent à leur satisfaction le régime sanitaire auquel on les avait soumis. « Eh bien, petit Jacques, » disait Jean-Paul, qui, après ce dîner, avait déjà oublié les malheurs de la nuit dernière. « eh bien, quand je te disais de me suivre, avais-je tort? Ne sommes-nous pas très bien ici ?»« À la bonne heure, » répondait petit Jacques, pour qui les doutes de l'avenir gâtaient un peu les douceurs du présent. « Mais qui nous répond que cela durera longtemps ?» Petit Jacques disait vrai. Le père François, le meunier de Séan, était un homme fort serviable à l'occasion, mais qui, l'occasion passée, n'était point d'humeur à s'imposer des charges inutiles. Quand il vit ses petits hôtes bien repus et fort capables de continuer leur tour du monde, il leur dit sans façon « Or ça, mes jeunes amis, j'ai fait pour vous tout ce qu'il m'était possible de faire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent voyage. Si fait, pourtant, je puis encore vous rendre un petit service. » Celui de vous reconduire à vos parents, quand vous me les aurez fait connaître. » La figure des deux ressuscités se rembrunit tout à coup. « Je vois ce que c'est, » reprit le père François. « Vous craignez d'être grondé, d'être corrigé, et au fait, je crois bien que, à la place de vos parents, je voudrais vous ôter l'envie de vous noyer une seconde fois, car ce serait une mauvaise habitude que vous prendriez là, mes jeunes navigateurs. Mais une correction est sitôt reçue. Il faut bien s'y résigner lorsque c'est pour notre bien, et que l'on ne peut faire autrement. » Ce mot de correction rembrunit davantage encore le visage de nos échappés. « Il paraît que vous n'êtes pas de cet avis, » continua le père François. « Libre à vous, mes amis, libre à vous. Au surplus, » ajouta-t-il d'un ton moitié goguenard, moitié sérieux, « il y a peut-être moyen d'arranger tout cela. Vous aimez, à ce qu'il me semble, la soupe aux choux et le porc frais aux pommes de terre. Et vraiment, vous n'êtes pas dégoûté. Or, vous en trouverez toujours ici à discrétion. Bon feu aussi, et bon coucher. Mais à une seule condition. » Ici, nos voyageurs devinrent extrêmement attentifs. « Cette condition, c'est que vous me donnerez un petit coup de main. Le moulin va bien, Dieu merci. Vous avez pu entendre son tic-tac. J'ai même besoin d'un garçon de plus. Vous n'êtes pas fort encore, mais à vous deux, vous en vaudrez bien un. Moyennant cela, la soupe aux choux, le lard aux pommes de terre, bon cidre, bon lit, bon feu, et des étrennes pour le dimanche. Dites oui, et c'est une affaire arrangée. » Jean-Paul et petit Jacques se regardèrent, incertains de ce qu'ils devaient faire. « Allons, allons, » ajouta le meunier, « je ne voudrais point vous recruter par surprise. Je vous laisse une heure de réflexion. Après quoi, de deux choses l'une, ou le moulin, ou bon voyage. Il n'y a pas de milieu. » Cela dit, il les quitta. Quand ils furent seuls, Jean-Paul dit à petit Jacques, qui paraissait plongé dans de profondes méditations, « Eh bien, elle est magnifique, la trouvaille. qu'en dis-tu? Est-ce que tu serais assez bête pour refuser? » « Ma foi, répondit Petit Jacques, je ne sais trop. Je crois que nous ferions mieux de retourner chez nos parents. Allons donc, pour nous faire gronder encore, tandis qu'ici nous serons si bien. C'est ça un homme, le père François. Et la mère François, c'est ça une femme. C'est ça de braves gens, et qui ont de bien bons lard. » Il paraît que la soupe aux choux et le porc frais aux pommes de terre entraient pour beaucoup dans la détermination de Jean-Paul. Petit Jacques n'était pas insensible non plus à ces hautes considérations gastronomiques. « Et puis, continua Jean-Paul, des étrennes le dimanche pour s'amuser, pour acheter des pommes et des châtaignes? L'état de garçon meunier ne doit pas d'ailleurs être bien difficile. Il ne doit pas falloir beaucoup d'esprit dans un état pareil. Les moulins, ça va tout seul. Il n'y a qu'à se croiser les bras et à les regarder faire. » Tous ces avantages réunis, y compris la soupe aux choux, décidèrent enfin Petit Jacques. Quand le meunier revient, Jean-Paul dit oui pour tous les deux, et ce fut marché conclu. 5 minutes après, ils étaient en fonction, montant des sacs de blé, les redescendant farine au moyen d'un gros câble et d'une poulie, ou bien garnissant le moulin, couvrant ou fermant l'écluse, se fatiguant de toutes les façons. Quelque pénible et rebutant que fût un tel office, ils s'en accommodaient fort bien le premier jour. C'était du nouveau pour eux, c'était du mouvement, c'était donc du plaisir. Ils riaient à la besogne, ils se faisaient un amusement de tout. Le maître ordonnait-il, nos deux apprentis meuniers luttaient de vitesse. Ils ne marchaient pas, ils couraient. Ce fut une journée d'enchantement et de poésie que couronnèrent dignement la soupe aux choux et le porc frais aux pommes de terre. Le second jour, le ravissement commença à décroître. Ils étaient fatigués de la veille et trouvèrent moins de charme à manœuvrer d'énormes sacs de farine, à monter, à descendre, à balayer, à faire en un mot toute la besogne que nous avons dite. Le troisième jour, ce fut bien pis, et puis encore le quatrième et le cinquième et le sixième. Le fait est qu'ils étaient exténués. La soupe aux choux et le porc frais aux pommes de terre les avaient consolés d'abord de beaucoup de désagréments, mais ils finirent par prendre en dégoût, en horreur, ces deux inévitables plats, surtout Jean-Paul qui soupira bien des fois en songeant par comparaison à l'excellente cuisine de la maison paternelle. Le père François, de son côté, ne cherchait pas à leur rendre la vie plus douce. Le père François était un très brave homme. Il le leur avait bien prouvé à la suite du naufrage. Et cependant, je ne sais pourquoi, il semblait prendre à tâche d'augmenter chaque jour la rudesse de leurs travaux. On eût dit qu'il avait de secrets motifs pour agir ainsi. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils riaient tout bas à les voir succomber sous des fardeaux sans proportion avec leur force, et que, tout haut, ils les grondaient d'un ton sévère. Jean-Paul avait de plus à essuyer incessamment les vifs reproches de Petit Jacques. « Ah, par exemple, lui disait celui-ci, selon son habitude, du matin jusqu'au soir et même durant la nuit, car ils étaient camarades de lit. Si c'est là ce que tu appelais être bien nourri et se bien amuser, tu pouvais bien me laisser chez mon père. » Petit Jacques était pour Jean-Paul un cauchemar perpétuel. C'est l'ordinaire en pareil cas. Le complice est toujours un remords vivant pour celui qui l'a corrompu. Enfin, pour comble de déboire, le père François se mit en tête le sixième jour de leur donner le soin de l'écurie. Les voici donc qui mènent les ânes au pré, qui en ramènent les ânes, qui font boire les ânes, qui donnent à manger aux ânes, qui lavent, qui épongent, qui étrillent les ânes. Ce fut, pour l'amour-propre de Jean-Paul, le coup le plus sensible que de voir lui, fils de bonne famille, lui, si vaniteux de la fortune de son père, lui qu'en effet un commencement d'éducation avait mis au-dessus de si basses fonctions, lui, ravalé ainsi. Et que fût-ce donc, lorsqu'un soir, comme il était à la porte du moulin, tout blanc de farine, visage et vêtements, il fut surpris étrillant un âne des plus rétifs par ce même mystérieux personnage qu'une fatalité lui faisait rencontrer toujours dans les moments les plus critiques de sa vie? Cet inconnu que, faute de mieux, nous appelons le géant, se planta devant lui, immobile, sérieux, croisant les bras, et, après l'avoir examiné un moment dans ses fonctions, que rendaient passablement dangereuses les continuelles ruades de l'âne, il poussa un de ces rires sardoniques qui font tant de mal à entendre quand on en est l'objet. « Courage, dit-il à Jean-Paul, Courage, mon jeune palefrenier, vous avez là un maître bien difficile à ce qu'il paraît. Mais, en définitive, il vaut peut-être mieux encore être le domestique d'un âne véritable, d'un âne à quatre jambes, que le serviteur d'un certain petit monsieur de ma connaissance qui, lui aussi, n'est qu'un petit âne, un âne rétif, et qui ne fait usage des deux siennes que pour courir les champs. » Le géant dit et disparut en ricanant. Cette plaisanterie, dont le hasard faisait une sorte de sarcasme direct, fut pour Jean-Paul comme un coup de massue. Les géants, selon toute apparence, plaisantaient lourdement. Jean-Paul en devint rouge de honte, malgré son masque de farine. Il jeta, de colère, l'étrier à 20 pas de lui. Puis il pleura à chaudes larmes, si bien que, l'amour-propre aidant, il reconnut intérieurement tous ses torts, et que peu s'en fallut qu'il ne prît à toutes jambes, malgré l'éloignement et la tombée de la nuit, le chemin de la maison paternelle, au risque de tout ce qui pouvait l'y attendre. Par malheur, en ce moment de repentir, une trompette, une clarinette et une grosse caisse se firent entendre non loin de là, sur la place du village. Il n'en fallait pas tant pour distraire le pauvre converti de ses bonnes pensées naissantes. Il courut aussitôt où l'appelait cette sauvage harmonie.